Le journal, présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir à tous. Il avait été condamné à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son ex-compagne. Un homme est libéré après 7 ans de prison. Le délai raisonnable avant son procès en appel ayant été dépassé. Florence Turme nous expliquera comment on a pu en arriver là. Des manifestants déterminés mais moins nombreux, c'était la 6e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Reportage à Paris de Laura Dulieu. La grève va coûter près d'1 milliard d'euros à la SNCF, selon son PDG. Jean-Pierre Farandou dévoilera en février un plan d'économie, précision d'Anne-Laure Jumet. Enfin, la pluie en Australie, un soulagement pour les pompiers épuisés par la lutte contre les incendies. Et une autre bonne nouvelle, les pins de Wollemi, une espèce vieille de plus de 200 millions d'années, ont pu être sauvés. Après l'assassinat de son ex-compagne, il avait été condamné à 30 ans de réclusion. Mais Ramón Cortés est remis en liberté aujourd'hui après seulement 7 ans passés en prison. La raison de cette libération, c'est que le délai prévu pour que se tienne son procès en appel n'a pas été respecté. Ou comment la stricte application du droit conduit à une aberration du fait du manque de moyens de la justice, Florence Turm.
Oui, la plaidoirie de l'avocat de la famille de la victime, mère de 3 enfants, est restée sans effet à l'audience prévue pour examiner la demande de mise en liberté de Ramón Cortés. Il a rappelé les circonstances particulièrement horribles, menaces, tortures et séquestrations qui avaient conduit la cour d'assises des Pyrénées-Orientales à prononcer 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé lors de son procès en octobre 2017. Ramón Cortés avait fait appel de cette condamnation et il doit être rejugé à Montpellier du 20 au 24 avril prochain. Or, la loi a fixé un délai maximum de 2 ans entre 2 procès, ce que l'on appelle un délai raisonnable. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises ces dernières années par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas l'avoir respectée. La loi est dure, mais elle doit passer, avait indiqué à l'audience l'avocat général Hervé Poineau, contraint, au regard des textes, de requérir la mise en liberté de Ramón Cortés, alors qu'il incarne par ailleurs l'accusation en tant que représentant du parquet. « J'ai conscience que mes explications sont inaudibles pour la famille de la victime », avait précisé le magistrat en déplorant le manque de moyens de la justice. Des juridictions surchargées qui n'ont plus les moyens de fonctionner. Depuis le 1er janvier 2001, les décisions de cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel. Cela ajoute encore à la difficulté d'organiser les procès dans les temps impartis. En attendant le second procès où il doit comparaître libre et présumé innocent, Ramón Cortés est astreint à un contrôle judiciaire très strict pour éviter tout risque de fuite. Son ancienne maîtresse, condamnée à 18 ans de réclusion pour complicité, n'avait pas fait appel du verdict. Elle est toujours en détention.
Florence Turm. Christophe Ruggia a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Le réalisateur avait passé 2 jours en garde à vue. L'actrice Adrès Haenel l'accuse d'attouchement lorsqu'elle était adolescente, ce que Christophe Ruggia conteste. Au procès de Bernard Prénat à Lyon, place aux plaidoiries des parties civiles avant la défense demain. Le tribunal correctionnel de Lyon est revenu sur le passé du prévenu qui a révélé avoir lui-même subi des agressions quand il était enfant et adolescent. Une question centrale a aussi été abordée aujourd'hui. D'après l'enquête, le père Prénat n'aurait pas fait de nouvelles victimes depuis 30 ans. C'est un des points clés de ce procès, Mathilde Imberti, et l'un des axes de défense de l'ancien prêtre.
Grande question dans ce procès, la non-récidive de Bernard Prénat. Quand on entend ce matin l'experte décrire l'addiction pédophile de l'ancien prêtre, il faisait, précise la psychiatre, une consommation effrénée de corps d'enfants. Et pourtant, Bernard Prénat dit avoir arrêté net en 1991, quand le diocèse de Lyon l'écarte des scouts de Sainte-Foy et le place dans une autre paroisse. L'archevêque de l'époque, le cardinal de Courtrai, lui fait comprendre qu'il n'aura pas de seconde chance. Le père Prénat ne veut pas rompre cette confiance, il tient. L'enquête n'a en effet révélé aucune victime depuis 30 ans. Personne n'a parlé, ce qui laisse sceptique maître Yves Sauvert, avocat de l'une des victimes.
Je ne crois pas qu'il y ait une espèce d'effet magique à cette phrase qui a été prononcée par de Courtrai. Je suis plus, moi, dans l'idée que ce qui s'était réglé en petit comité va éclater au grand jour. Donc, effectivement, ça peut être, si on croit ces explications, hein, parce qu'on nous assène un acte de foi. À partir de 90-91, il ne s'est plus rien passé. Bon, moi, je suis sceptique aussi. Voilà.
Bernard Prenat risque 10 ans de prison. Le jugement sera rendu dans plusieurs semaines. Il pourra toujours interjeter appel. Et à ce sujet, une victime, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, l'a interpellé directement. J'espère que vous aurez la décence de ne pas faire appel. Nous avons tous envie de tourner la page.
Mathilde Imberti à Lyon. Après 6 semaines de conflits, difficile de maintenir la flamme. L'appel de l'intersyndicale à une 6e journée de mobilisation interprofessionnelle a été moins suivi, même s'il y a eu, une fois encore, des manifestations dans toute la France. À Paris, la CGT a revendiqué 250 000 manifestants entre Montparnasse et la place d'Italie contre 370 000 le 9 janvier. Mais ceux qui restent mobilisés se disent toujours déterminés et les profils des manifestants restent très variés, Laura Dulieu.
Oui, c'est l'une des grandes satisfactions du noyau dur. La contestation gagne de plus en plus de secteurs. Cédric Gentil est conducteur du RERA. Il veut y voir là un passage de relais.
On est allé voir un petit peu ce qui se passait autour de nous pour essayer de faire sens commun et d'aller ramasser le plus de monde autour de nous. Les avocats sont dans la rue, les profs, la santé, les secteurs privés, publics. On est tous ensemble dans la rue et ça nous fait vraiment chaud au cœur. On est la locomotive qui a lancé le mouvement. On passe le relais, mais on est toujours là. On va continuer jusqu'au retrait. Ouais.
Il n'empêche que 43 jours de grève, c'est difficile avec une grosse incidence sur la fiche de paye. Jérémy Mounier est enseignant au collège en grève depuis le 5 décembre.
Comment je tiens ? Psychologiquement, je suis persuadé qu'on a raison et qu'il faut retirer cette réforme. C'est la destruction d'un dernier lien social qui existe dans ce pays, qui a un sens historique et en fait tout le monde y tient. C'est toute la sécurité sociale qui a attaqué. C'est vraiment un changement de philosophie dans nos sociétés. Et ça, je pense que beaucoup de monde dans l'éducation nationale l'a bien compris. Et il ne veut surtout pas ça en fait. J'y crois et en fait on sera là jusqu'au retrait et c'est pas un vain mot.
Beaucoup de détermination donc dans le cortège et il en faut pour que le mouvement perdure. Olivier Augustin est salarié chez Renault et militant CGT et lutte ouvrière. Il espère une plus grande mobilisation des salariés du privé.
Il y a un soutien vraiment impressionnant de la grande majorité des travailleurs. Moi dans l'usine j'ai rencontré aucun travailleur qui était contre le mouvement de grève. Il faudrait que dans les usines on s'y mette. C'est un peu ça le problème et que la classe ouvrière là vraiment elle se fasse entendre. On espère que ça va se renforcer. On espère qu'on va être de plus en plus nombreux dans la bagarre pour pouvoir répondre présent à toutes les attaques qui vont avoir lieu demain.
Et d'ici là, les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations les 22, 23 et surtout 24 janvier, jour de l'examen du projet de réforme au Conseil des ministres.
Et la France insoumise affiche toujours son soutien aux grévistes, un soutien que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a aussi concrétisé sous la forme d'une caisse de grève mise en place fin décembre à l'Assemblée nationale. Ce matin, Sophie Delpont, 7000 euros ont ainsi été remis sous la forme d'un chèque aux grévistes de la ligne A du RER.
Oui, c'est un geste avant tout symbolique car cette caisse de grève parlementaire est finalement assez loin de l'objectif de départ, reconnaît Éric Coquerel devant les grévistes.
Très sincèrement, on souhaitait que tous les autres groupes participent. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai pas envie de faire de polémique. Ça ne veut pas dire que les autres ne versent pas, mais ça veut dire que, par exemple, comme nous, ils versent aussi à d'autres caisses de grève. Bon.
Donc finalement, seuls les députés La France Insoumise et l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann ont contribué à cette caisse de grève parlementaire. Mathilde Panot, vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, remet le chèque aux grévistes.
Parce que le gouvernement est en train d'utiliser une méthode qui est complètement dégueulasse, c'est-à-dire d'attendre que les frigos des grévistes et de leurs familles soient complètement vides. Donc merci, merci à vous et continuez.
Merci. Merci pour tout ce que vous dites. Merci beaucoup.
Je suis Pascal Leroux, je travaille comme conducteur sur le RER A. Donc on restera mobilisé, on est très fiers de défendre notre modèle social qui est unique dans le monde.
7000 euros, ça permet de donner de l'argent à combien de personnes ?
Vous vous rendez compte que sur l'ensemble du RER, je crois qu'on est près de 500 conducteurs rien que pour le RER A. Tout un mois de salaire pour un conducteur comme moi, ça représente à peu près 2500 euros pour un mois. Donc là, on est à 42 jours, donc ça veut dire quasiment 2 mois de salaire en moins. Donc disons que ça aide un petit peu, mais vraiment, je vous dis, c'est peanuts par rapport à ce qu'on perd, c'est certain. On reste ensemble, fraternel.
Les grévistes de la ligne A du RER ont déjà prévu de poursuivre leur mouvement jusqu'à vendredi prochain, jour où le projet de loi sera sur la table du Conseil des ministres.
Demain, le trafic TGV sera quasi normal. Celui des TER s'améliorera nettement avec 8 circulations de TER sur 10. 3 transiliens sur 4 circuleront. Mais la grève contre la réforme des retraites a déjà eu un fort impact sur la SNCF. Selon son PDG, elle va coûter près d'1 milliard d'euros à l'entreprise qui va devoir subir un plan d'économie, Anne-Laure Jumet.
Oui, un plan d'économie qui sera
sera présenté fin février. C'est ce que vient d'annoncer en effet Jean-Pierre Farandou, le nouvel homme fort de l'entreprise ferroviaire, qui dans le même temps actualise le coût de la grève pour la SNCF. Les pertes s'élèvent donc aujourd'hui à 850 millions d'euros et au total, on approchera en effet le 8 milliards d'euros. Alors, outre ce plan d'économie dont on ne connaît pas encore les détails, Jean-Pierre Farandou a répété également qu'il envisageait des cessions d'actifs. En revanche, assure-t-il, il n'y aura pas de suppression d'emplois sur le terrain. Cette grève, ça va faire mal, ça va nous abîmer, ajoute encore le patron de la SNCF, qui n'hésite pas à monter au créneau pour présenter à l'opinion la facture de la grève et dire en creux aux cheminots grévistes qu'ils sont en train de pénaliser leur outil de travail. Alors précisons que 600 millions d'euros sont déjà enregistrés sur les comptes de 2019. Ils sont perdus, explique Jean-Pierre Farandou. L'enjeu désormais, c'est de limiter l'impact sur cette année, alors que 300-350 millions d'euros de pertes sont déjà comptabilisés depuis le 1er janvier. Outre les économies et les cessions d'actifs, l'entreprise va aussi pratiquer des petits prix pour doper le trafic. Déjà l'an dernier, la SNCF avait ressenti l'impact de la grève. Cette grève perlée, qui avait duré 36 jours contre la réforme ferroviaire, avait occasionné un manque à gagner de 890 millions d'euros.
Anne-Laure Jumet. Marine Le Pen se lance en campagne pré-présidentielle. La présidente du Rassemblement national l'a annoncé à l'occasion de ses vœux à la presse au siège de son parti à Nanterre. Elle dit vouloir préparer une grande alternance à Emmanuel Macron lors du scrutin de 2022. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Pourquoi est-ce que Marine Le Pen entre si tôt en campagne ?
Eh bien, il y a d'abord le contexte, le climat de tension que connaît le pays avec la réforme des retraites. Et puis, il y a Emmanuel Macron. Pas question de lui laisser trop d'espace.
Je ne le laisserai pas courir tout seul. Bon. Maintenant, ça n'est presque ni vous ni nous qui décidons de cela. C'est juste le calendrier et puis peut-être aussi un peu les événements.
Marine Le Pen qui avance également des raisons de caractère alors que les mois qui viennent vont voir de nouvelles candidatures émerger.
J'ai tenu très vite à vous épargner les faux-semblants, les déclarations en demi-teinte, les postures empruntées. Et puis c'est dans mon caractère d'être franche et directe car c'est, je crois, fondamentalement une marque de respect pour vous de ne pas vous cacher ni mes intentions, ni mes objectifs, ni les moyens que je me donne pour les atteindre.
Et elle se prépare, Marine Le Pen. C'est pourquoi elle s'était un peu retirée de la joute électorale ces derniers mois pour se concentrer sur les dossiers. Elle consulte des experts du cercle des Horaces notamment. Et l'objectif aussi pour elle, c'est de mettre son parti en ordre de marche, en soignant bien son ancrage territorial et donc les municipales.
On voit d'ailleurs la difficulté qui est celle d'Emmanuel Macron, qui a traité avec un peu d'insouciance. La constitution de son mouvement politique et qui aujourd'hui, je le pense, le regrette.
Marine Le Pen qui compte d'ailleurs attaquer la circulaire Castaner, ce texte du ministre de l'Intérieur qui demande au préfet de ne plus attribuer d'étiquette politique aux candidats aux municipales dans les communes de moins de 9000 habitants, une décision accusée de manipulation par toute l'opposition.
Anne Fauquemberg. La pluie est revenue en Australie. De fortes précipitations se sont abattues sur plusieurs des régions confrontées à de terribles feux de forêt. Les incendies ont fait 28 morts et près d'un milliard d'animaux pourraient avoir péri. L'arrivée de la pluie est donc un immense soulagement pour les pompiers. Et c'est également aujourd'hui qu'on apprend que des arbres précieux ont pu être sauvés. Bonsoir Élise Delève.
Bonsoir.
Il s'agit d'arbres apparus à la préhistoire, d'où leur surnom d'arbres dinosaures. Une mission de protection environnementale sans précédent a été organisée pour qu'ils puissent échapper aux flammes.
Oui Aurélie, depuis le début des incendies, les arbres dinosaures sont surveillés. Le mois dernier, les flammes s'approchent dangereusement de la zone où ils sont pourtant bien cachés, une gorge des Blue Mountains, montagne du sud-est de l'Australie. Ces pins, vieux de plus de 200 millions d'années, vont partir en fumée si les autorités ne font rien. Elles décident alors d'envoyer des avions bombardiers d'eau. Les secouristes larguent tout autour des arbres comme un anneau de protection, des produits censés retarder les flammes. Des pompiers spécialisés sont élitreillés dans la gorge et installent un système d'irrigation pour garder l'humidité, les flammes et les fumées épaisses inquiète. Il faut attendre des jours avant de retourner sur place pour voir si la mission est une réussite. Aujourd'hui, les autorités annoncent que les arbres dinosaures ont été sauvés. Elles parlent d'un succès phénoménal. La localisation précise de ces pins rares reste pourtant secrète. Pour les protéger, depuis leur découverte en 1994, personne n'a pu les voir, à part les spécialistes, personne, même pas les flammes.
Élise Delève. L'Allemagne organise sa sortie du charbon. L'État fédéral et les lenders concernés se sont entendus pour définir un calendrier de fermeture de toutes les centrales à charbon du pays, particulièrement polluantes. 40 milliards d'euros se seront débloqués pour accompagner cette sortie. La correspondance de Nathalie Versieu à Berlin.
En Allemagne, un tiers de la production d'électricité est liée au charbon ou au lignite, charbon brun particulièrement polluant et de piètre qualité. Sous la pression de la rue, le gouvernement avait décidé, voici un an, de fermer toutes les centrales à charbon du pays d'ici 2038. Le calendrier et les modalités de cette sortie sont désormais fixés. 40 milliards seront consacrés par l'État à la sortie du charbon. 14 milliards seront versés aux quatre lenders concernés pour des mesures de reconversion. Les 26 milliards restants serviront à indemniser les producteurs d'électricité propriétaires de ces centrales, les salariés ou à subventionner les industries fortement consommatrices en courant qui redoutent une hausse du prix de l'électricité. La première centrale devrait fermer en décembre prochain à l'ouest du pays, mais les associations de défense de l'environnement déplorent que la majorité des centrales ferment après 2030. Le gouvernement rétorque qu'en fonction de bilans d'étapes qui seront menés en 2026 et 2029, le pays pourrait sortir définitivement du charbon 3 ans plus tôt que prévu en 2035.
Le Luxembourg va devenir le premier pays de l'Union européenne à interdire le glyphosate. D'ici la fin de l'année, les produits phytopharmaceutiques à base de cet herbicide seront bannis des sols du Grand-Duché. Selon le gouvernement luxembourgeois, près de 60% des exploitations agricoles du pays ont déjà renoncé au glyphosate et un système d'indemnisation a été mis en place fin 2019 à destination d'un millier d'exploitations agricoles. La Commission européenne lance le chantier du SMIC européen. Ursula von der Leyen s'y était engagée cet été devant les eurodéputés. Avoir un cadre légal pour les salaires minimums dans l'Union européenne, cela doit permettre de lutter contre le dumping social, Angélique Boin.
22 pays membres sur 28 ont déjà un salaire minimum proche des 300 euros bruts mensuels en Bulgarie. Il grimpe à un peu plus de 2000 euros au Luxembourg, un écart de 1 à 7. Mais si l'on tient compte du coût de la vie, cet écart tombe de 1 à 3. C'est encore trop pour la Commission qui n'entend pas mettre en place un SMIC égal en montant pour tous. C'est irréaliste, mais qui veut garantir aux travailleurs européens un cadre légal minimum pour permettre à chacun de vivre dignement dans son pays. 60% du salaire médian pourrait être une bonne base de travail. Cela réduira les inégalités, estime Sylvie Guillaume. L'eurodéputée socialiste française redoute néanmoins la réaction de certains États, à l'Est en particulier, où les salaires ont déjà augmenté et qui craignent qu'une nouvelle hausse ne nuise à la compétitivité de leurs entreprises.
Il y a cette question aussi derrière de lutter contre le dumping social. Parce que à partir du moment où vous avez des salariés, des travailleurs dans l'Union qui sont, je mets des gros guillemets, moins chers dans certains États membres, évidemment, les entreprises n'ont pas forcément très envie d'aller vers une harmonisation poussée.
Au nord, les pays scandinaves redoutent de leur côté que cela ne bouleverse leurs pratiques. Chez eux, comme en Italie ou à Chypre, tout est décidé par des conventions collectives. La Commission avance donc sur des œufs en lançant au préalable une vaste consultation des partenaires sociaux européens, syndicats et patronats.
Angélique Boin à Strasbourg pour France Culture. Le maréchal Haftar se dit prêt à respecter le cessez-le-feu en Libye. L'homme fort de l'Est libyen se dit également prêt à participer à la conférence internationale sur la Libye qui sera organisée dimanche à Berlin sous l'égide de l'ONU. Une annonce faite alors que les troupes turques arrivent en Libye. Mardi, Eric Begala, le président turc, avait averti que son pays n'hésiterait pas à donner une leçon aux forces du maréchal Haftar en cas de poursuite de son offensive contre le gouvernement de Tripoli.
Oui, Erdogan a répété ce jeudi des annonces qui ne sont en fait qu'une confirmation des supplétifs de l'armée turque. En clair, des miliciens syriens, entraînés, armés et payés par Ankara, sont d'ores et déjà à pied d'œuvre en Libye. Seul un peloton d'une trentaine de militaires turcs, chargés de la coordination de ces forces syriennes, a aussi débarqué à Tripoli. Reste qu'en tout, le contingent turc, qui sera donc surtout syrien, devrait compter autour de 3000 hommes, c'est-à-dire une vraie force, et son rôle sera clairement d'en découdre, de donner une leçon au général Haftar, comme dit le président Erdogan. Pour le moment, le cessez-le-feu conclu ce week-end tient toujours sur le terrain, mais reste particulièrement fragile. Et cette nouvelle annonce d'un déploiement turc n'augure pas bien de la conférence de paix convoquée à Berlin dimanche prochain. Organisée sous égide onusienne, cette conférence devra surtout, selon le secrétaire général des Nations Unies, unifier la communauté internationale afin de mettre un terme au conflit. Antonio Guterres rappelant ces dernières heures, je le cite, que tout soutien étranger aux partis en guerre ne fera que renforcer le conflit. Une pierre dans le petit jardin turc, évidemment, mais aussi Tessine en suit les autres. Le camp du gouvernement internationalement reconnu de Fayez al-Sarraj est soutenu par la Turquie militairement, mais par le Qatar, au moins financièrement, et plus mollement aussi par la plupart des pays occidentaux. En face, le camp du général Haftar a le soutien militaire des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, mais aussi de la Russie et de la France, qui lui a même dépêché quelques hommes de ses forces spéciales, tandis que les Saoudiens l'épaulent financièrement. Tous ces acteurs secondaires du conflit ont aussi été convoqués et participeront à la conférence de Berlin. Ce sera déjà important s'ils parvenaient tous à s'engager au moins à cesser de jeter ainsi de l'huile sur le feu libyen.
Éric Biagala, une centaine de manifestants ont été arrêtés au Liban au cours des dernières 48 heures. Hier et avant-hier, Beyrouth avait été le théâtre d'incidents nocturnes particulièrement violents avec des actes de vandalisme contre plusieurs banques de la capitale. Demain vendredi, Météo France prévoit des passages pluvieux. Il y aura des giboulées au sud de la Garonne, quelques orages sur la Provence et de la neige en montagne. Les températures seront en légère baisse, de 0 à 10 degrés au petit matin, de 9 à 13 l'après-midi, 14 à 17 sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.